Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, on va parler sans suspense de délégation. La première chose que j'ai faite quand j'ai créé ma micro-entreprise, c'est de déléguer tout de suite toute ma gestion administrative à une assistante virtuelle. C'était vraiment comme une évidence pour moi. J'y ai vu tout de suite le potentiel de gagner du temps pour me consacrer à mes clientes, pour me consacrer à la création ou encore au développement de mon chiffre d'affaires pendant ce temps-là et en même temps d'avoir un suivi de mon administratif bien organisé et beaucoup moins de charge mentale sur ce sujet. Mais je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours si évident et normal, entre guillemets, de déléguer, qu'il existe de nombreux freins et fausses croyances à la délégation. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas le budget, que ce n'est pas encore le bon moment pour toi parce que tu démarres, ou encore que tu ne sais pas vraiment quoi déléguer finalement, ni comment trouver la bonne personne. Peut-être aussi que tu as déjà essayé des missions ponctuelles de déléguer et ça n'a pas fonctionné, ou alors tu as été déçu. Peut-être aussi que tu résistes à déléguer parce que tu penses que ça ne sera pas aussi bien fait que par toi. Et donc, tu préfères garder le contrôle sur ton business. Peut-être aussi que ton business stagne depuis des mois parce que tu es sur tous les fronts. D'ailleurs, tu commences peut-être à t'épuiser, à te démotiver, alors qu'en réalité, ce dont tu as réellement besoin, c'est de commencer à mettre en place une équipe qui va te soutenir et te permettre d'avancer. Aujourd'hui, je souhaite donc te partager dans cet épisode à la fois mon expérience de la délégation, mais j'ai également le plaisir de recevoir mon assistante Lucie, qui est aussi d'ailleurs la fondatrice d'une agence d'assistante virtuelle, la Hive Agency, et qui va te donner toutes les clés de la délégation. Quand déléguer? Comment savoir ce que tu dois déléguer? Par quoi commencer quand on délègue? Comment te préparer à la délégation? Comment trouver la bonne personne à qui déléguer? Et quel budget prévoir pour déléguer? Toutes ces questions n'auront plus de secret pour toi. Peu importe où tu en es sur ton chemin entrepreneurial aujourd'hui, cet épisode est fait pour toi et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Lucie. Bienvenue Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur les ondes de YogiBiz Podcast aujourd'hui.
Bonjour Cécile, merci de m'accueillir, j'ai hâte de pouvoir partager avec toi.
Yes, alors aujourd'hui un sujet hyper important. Donc tout le monde sait que tu es mon assistante et qu'on va parler aujourd'hui de délégation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour mon audience?
Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous et toutes. Alors, vous le savez, donc je suis l'assistante de Cécile. J'ai une double casquette aujourd'hui. Je suis assistante virtuelle depuis maintenant 2 ans. Mon activité s'est développée et je suis aussi fondatrice et gérante d'une agence d'assistante virtuelle. Aujourd'hui, une assistante virtuelle, c'est un métier qui se développe. On fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes différentes, beaucoup de spécialités différentes. Donc, on va essayer avec Cécile de vous montrer un petit peu, on va parler de la délégation et de vous montrer un petit peu à quoi peut servir une assistante virtuelle.
Yes, alors ma première question pour toi Lucie, j'en ai parlé récemment dans un reel sur les réseaux sociaux, Instagram, quand je parlais des techniques sous-cotées en fait pour développer son biz, et moi ma conviction c'est qu'il ne faut pas attendre en fait de faire un certain montant de chiffre d'affaires pour déléguer. Donc j'aimerais te poser à toi la question, parce que c'est ta zone d'expertise, alors quand est-ce que c'est le bon moment s'il y en a pour déléguer? Quand déléguer?
Alors, c'est une question que tout le monde se pose et je ne sais pas si ma réponse va vous plaire, mais il n'y a pas de bon moment. Ça dépend de chacun. On peut déléguer dès le début de son activité. On n'a pas besoin d'attendre de se dire mon business est rentable ou j'ai passé un palier de chiffre d'affaires pour déléguer. On peut faire le choix de se faire accompagner dès le début, c'est totalement réalisable. On peut également faire le choix d'attendre que son business soit en croissance et on se dit, bah, c'est parti, j'ai envie de construire mon équipe, mon business y roule, on augmente et on y va. On peut également choisir de venir déléguer à un moment précis de son activité, par exemple pour un lancement, pour une redirection ou pour un projet précis. On peut également choisir de déléguer à un moment où on se dit, oula, je suis sous l'eau, j'ai plus de temps pour mon business, j'ai besoin d'être accompagnée. Donc, vous voyez, il y a plein de moments, en fait, dans la vie d'un business où on peut faire le choix de commencer à déléguer. Il n'y a pas de bonne réponse. Ça va vraiment dépendre de chaque entrepreneur, de votre ressenti et de votre besoin sur le moment. Et encore une fois, bah, par exemple, Cécile est, est l'exemple même que tu as commencé à déléguer dès que tu as commencé à lancer.
Dès que j'ai créé l'auto-entreprise, ouais. Sur la partie du coup administrative purement, puisque pour moi c'était justement cette gestion administrative de suivi des recettes, de faire les bonnes déclarations, etc. Et très clairement, alors qu'est-ce qui m'a décidé du coup, pourquoi ça a été le bon moment pour moi? Ça a été, enfin pour moi, c'est un calcul en fait de me dire, ok, moi le temps que je vais passer là-dessus, parce que je suis pas à l'aise avec ça, je vais vérifier 50 000 fois, je vais perdre du temps à rechercher les infos, je suis pas forcément hyper organisée dans le sens des process, des tableaux, des choses comme ça. Et je me suis dit, ok, moi je vais peut-être y passer une journée. Combien vaut ma journée en fait? Et à partir de là, je me suis dit, ok, vaut mieux que j'ai quelqu'un qui sache le faire. Et versus que moi, je peux, entre guillemets, faire comme chiffre d'affaires pendant ce temps-là, bah, l'opération, clairement, elle est blanche. Donc, voilà comment j'ai aussi pris ma décision. Je pense que c'est important. On reviendra sur le coût de la délégation. Mais effectivement, oui. Ça veut juste dire qu'il y a des choses aussi qu'on peut faire dès le début. Donc, quand déléguer, si j'ai bien compris, juste pour récapituler, donc il y a finalement quand on veut un petit peu se décharger de l'opérationnel et commencer à bosser sur son business et donc en même temps créer une équipe autour de soi, quand on est éventuellement dans un goulot d'étranglement, submergé, débordé, qu'on prend l'eau, qu'on prend le jus. Et puis, tu nous as dit aussi, lorsqu'il y a un temps fort, donc je pense par exemple... lors d'un lancement, on peut se faire aider effectivement pour un lancement. Et je rajouterais aussi de mon côté, quand il y a une expertise qu'on n'a pas, et plutôt parfois que de vouloir apprendre cette expertise, ça peut être intéressant bah, voilà, de déléguer à quelqu'un qui sait faire et on apprendra plus tard ou on n'apprendra pas, mais on ne peut pas tout savoir comme par exemple la publicité Facebook ou pourquoi pas même des automatisations ou des choses comme ça.
Tout à fait. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui aiment apprendre avant en fait de déléguer.
De déléguer,
qui,
tout voilà, à fait.
Qui ont envie de tester par elles-mêmes, de voir si elles peuvent réussir, si elles aiment faire ça. Donc, ils commencent par le faire elles-mêmes et au final se rendent compte bah, soit que ce n'est pas leur zone de génie, soit que ce n'est pas fait pour elles et du coup, elles délèguent. Ou il y a des personnes comme toi qui savent dès le début, bah, cette partie, je n'ai pas envie de m'en occuper, je serai plus productive ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, et qu'ils le font dès le début. Mais ce n'est pas évident de se dire ça dès le début parce que beaucoup d'entrepreneurs, en général, quand on se lance, on a du temps. Donc, ils se disent, bah, je ne suis pas en manque de temps. Je vais me former et je vais le faire moi-même. Et puis, j'ai le temps à côté aussi de développer mon entreprise parce que, voilà, et de faire ce que j'aime. Donc, c'est pas le schéma classique, j'ai envie de dire, mais un schéma qu'on voit pas mal, ce côté-là de je me lance, j'ai du temps, je sais ce que j'aime le plus faire dans mon métier, c'est mon cœur de métier, mais vu que j'ai le temps, eh ben, je m'occupe aussi des autres parties qu'il y a à côté et je verrai plus tard pour les déléguer.
Ouais, exactement. Après, moi, j'avoue que effectivement, je l'ai fait sur l'administratif, mais par contre, j'ai mis les mains dans le cambouis pour tout le reste. Enfin, sauf effectivement la publicité Facebook, mais parce que j'en fais pas, par exemple, aujourd'hui, si on prend cet exemple-là. Mais oui, effectivement, je pense qu'on a les deux profils. Après, ouais, ça peut être un calcul, hein, un coup d'opportunité, voilà. Donc, mais c'est bien, on a tous les cas de figure. Du coup, Lucie, comment identifier ce qu'on peut ou ce qu'on doit finalement déléguer?
Alors, je vais vous partager deux options. La première option, elle est à faire vous-même et la seconde, on verra, c'est vous faire accompagner. Donc, la première, j'aime bien utiliser cette méthode avec mes clientes. C'est une méthode en trois parties, on va dire. Alors, il faut déjà prendre du temps, on se pose et on dédie ce temps-là à se dire « Bon, aujourd'hui, je travaille sur ça, qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce que je peux déléguer dans mon business ?» On vient prendre une feuille blanche ou un cahier, ou si vous êtes plus team numérique, vous ouvrez un nouveau fichier vierge avec rien du tout. Et là, on vient lister tout ce qu'on fait dans sa semaine pour son business. Mais on vient vraiment tout lister, toutes les micro-tâches. Parce qu'on se rend compte en général que faire une seule chose, on va donner un titre à cet élément-là. Par exemple, là, j'ai le replay en tête, mettre un replay à disposition pour ses clients. Bah, en fait, ce n'est pas juste mettre le replay. Avant, il faut aller le récupérer, il faut aller le couper, il faut aller le charger sur votre plateforme de formation. Ensuite, il faut aller l'annoncer aux personnes. Donc, vous voyez, de un mot, mettre le replay, finalement, j'ai 4-5 tâches qui en sont sorties. Donc, le but, c'est qu'on vienne vraiment tout détailler, tout ce qu'on est amené à faire dans une semaine. Donc, ça va vous prendre beaucoup de temps, normalement, et vous n'allez pas avoir qu'une seule feuille. C'est normal que ça s'étende. Une fois qu'on a fait cette première étape, on vient surligner ou entourer toutes les choses qu'on aime faire, qu'on aime faire ou qu'on veut absolument conserver pour X raisons. Donc là, déjà, vous avez en fait votre zone de génie ou les choses vraiment que là, vous allez devoir garder vous. Et tout le reste, donc il en reste un paquet, c'est potentiellement toutes les missions que vous allez pouvoir déléguer. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut tout déléguer d'un coup. Bien entendu, ce n'est surtout pas la chose à faire pour ne pas se perdre, mais on va venir faire un tri déjà. Donc ça, c'est la troisième étape. On vient prendre toutes les informations qui restent, toutes les missions qui restent, et on va venir les classer. Donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous les classez par catégorie. Par exemple, ça peut être de l'administratif, faire les devis, envoyer les factures, récupérer les justificatifs pour le comptable, faire la déclaration de chiffre d'affaires, la déclaration de TVA, vous voyez, toutes ces petites choses. Ça peut être également une partie communication, programmer les posts Instagram, écrire une newsletter, programmer la newsletter, faire des visuels de template. Bon, vous voyez un petit peu, j'essaie de vous donner des exemples précis, mais ça peut être classé donc par catégorie ou bien par degré de priorité dans le besoin de déléguer. Par exemple, il peut y avoir une tâche où vous dites, bon, ça, je ne peux plus laisser de côté, ça fait des mois et des mois que ça traîne, ce n'est pas à jour, je veux absolument qu'on commence par ce point-là. Donc là, c'est à vous de les classer comme vous le voulez. Donc, si je reprends la méthode en trois étapes. Première étape, on vient lister sur une feuille blanche tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on fait pour son business sur une semaine, une journée, à vous de voir. Deuxième étape, on vient surligner tout ce qu'on aime faire, tout ce qu'on veut conserver. Troisième étape, on vient classer par catégorie ou par ordre de priorité tout ce qui reste. Et là, vous avez ainsi toutes les tâches, les missions qui sont potentiellement délégables. Oui, ça se dit ? Oui.
Je pense que ça se dit. Alors voilà, donc là, vous avez l'exemple d'une parfaite générateur en human design qui vous donne le process étape par étape délégué à une générateur. C'est parfait. Donc, OK, donc ça, c'était pour la première option, Lucie, pour le faire soi-même. Alors effectivement, hein, c'est par ce process-là que moi, je suis passée aussi, que tu m'as fait passer quand j'ai décidé de te déléguer plus de choses que l'administratif. Et effectivement, alors déjà, lister tout ce qu'on fait sur une journée, je pense qu'à la fin de la journée, c'est juste incroyable. Et comme tu dis, vraiment, c'est important de tout noter, enfin, c'est-à-dire le nombre de les messages auxquels on répond, les commentaires, tout ça, parce que ça peut être aussi derrière de déléguer un peu son customer care, son suivi client, etc. Donc, c'est incroyable le nombre de micro-tâches qu'on peut faire dans une journée. Et alors ça, dupliquer à la semaine et dupliquer au mois, parce qu'il y a aussi des choses qu'on fait ponctuellement dans le mois. C'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir comme temps volé, quoi, hein, en dehors de notre zone de génie, clairement. OK, et donc la deuxième option.
Donc, la deuxième option, si cela vous paraît trop important pour vous ou vous vous sentez submergé par la méthode précédente, vous pouvez décider de vous faire accompagner en faisant, par exemple, un audit de votre business, du fonctionnement de votre business, notamment avec une OBM, donc une personne, une Office Business Manager, pardon.
Online Business Manager,
excusez-moi, qui va venir.
Il n'y en a fait... pas beaucoup, c'est pour ça qu'on ne se rappelle plus. On a du mal à en trouver.
On commence à le voir. Si vous voyez OBM, c'est ce dont je vous parle. qui va venir en fait faire le point avec vous sur tout ce qui existe dans votre business aujourd'hui et qui va venir vous aider à faire ce travail dont je vous ai parlé un petit peu en amont, mais qui va venir potentiellement faire beaucoup plus. Mais ça peut être seulement une mission pour venir faire un audit et vous aider à déterminer qu'est-ce que l'on doit déléguer et par où est-ce qu'on commence. Voilà.
Yes. Je me posais la question du coup quand on en est à l'étape où on vient entourer, tu vois, ce qui potentiellement, alors ce qu'on n'aime pas faire, ça, je pense que tout le monde a aucune difficulté. Après, je dirais, il doit y avoir des tâches où c'est, je suis pas fan, mais comme je sais faire, et en même temps, je pense que personne est capable de faire ça comme moi. Du coup, je vais le garder. Est-ce qu'on a souvent ce type de comportement à la délai, enfin voilà, qui peut du coup venir un peu fausser
Oui, bien sûr, c'est totalement humain, c'est totalement normal. Moi, la première, je suis dans ce cas-là. Ce qui se passe souvent, c'est tout simplement libère, on va dire, avec le temps. On commence par confier ce qu'on a envie le plus de confier à son assistante. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, il va y avoir une relation qui va se construire. Il va y avoir la confiance qui va arriver. L'assistante va aussi de plus en plus s'imprégner du business de sa cliente. Et vous allez vous dire, bon, je suis satisfaite, je vous le souhaite, et du coup, vous dire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour lui déléguer d'autres choses, je vais bien lui expliquer ce que j'ai, et puis après, c'est le rôle aussi de l'assistante de venir vous rassurer, de venir aussi poser toutes les questions dont elle a besoin pour s'assurer que le job soit fait comme vous le vouliez. Bien sûr, ça peut être fait exactement comme vous, ça peut être rare aussi, et des fois, ça peut même être mieux parce qu'on peut avoir un autre œil.
C'est ce que j'allais dire. Dans mon cas, je pars du postulat de départ que ce sera probablement même encore mieux fait. Donc, exactement.
Voilà, ça dépend vraiment de chacun parce que l'assistante peut ajouter son œil et son expertise et proposer des améliorations qui pourront vous plaire. Mais aussi l'option, ben voilà, je veux que ça soit fait comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Et l'assistante, elle est là pour appliquer et on le fait. Mais souvent, ça, c'est normal. C'est des petites peurs qui sont là au début et qui disparaissent, je pense, lors de la mise, que la collaboration, en fait, fonctionne.
Exactement. Moi, je peux donner l'exemple hein, avec toi. Donc, il y a plein de choses voilà, qu'on met en place petit à petit. Et par exemple, bon, Lucie est une aficionados de Notion. Donc, ce qui veut dire que petit à petit, tout est organisé sur Notion. Mes process commencent à prendre forme sur Notion, etc. Et donc, ça, c'est par exemple quelque chose où moi, j'aurais pas forcément pris le temps de me former ou j'aurais pas forcément centralisé tout ça. Donc, en l'occurrence, in fine, ça veut dire que j'ai plein de choses qui sont entre guillemets mieux faites, mieux organisées, mieux répertoriées que ce que j'aurais fait par moi-même sur certains aspects. Donc effectivement, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un fasse les choses mieux que nous. Donc ça vaut le coup de tenter. Alors par quoi commencer du coup quand on démarre, quand on commence à déléguer?
Alors là aussi, je vais vous donner deux exemples. Soit on est à jour, on est prête, on sait exactement ce qu'on veut déléguer et comment est-ce qu'on imagine la collaboration. Donc là, j'ai envie de dire, on se lance dans le vif du sujet. Imaginons, vous êtes formatrice, vous avez donc une formation en ligne et vous vouliez développer, vous vouliez déléguer la partie client, customer care, voilà, le fait que l'assistante vienne s'occuper de toute la partie chouchoutage du client, mettre en ligne les replays, mettre en ligne la formation, souhaiter la bienvenue, ouvrir les accès, envoyer les petits cadeaux de bienvenue, programmer les mails, toute cette partie-là. Bah, si vous êtes prête, bah, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet et ça, normalement, c'est des choses que vous avez envie de déléguer puisque vous, votre corps de métier, c'est, on va dire, transmettre. Ça va être de produire le contenu même de la formation, mais pas de faire toutes ces petites tâches à côté qui demandent beaucoup de temps. Donc là, vous êtes prête, on commence, on fait comme ça. Il y a une autre option également. Il y a des personnes qui, au moment où elles délèguent, elles ont eu l'envie de déléguer parce qu'elles étaient sous l'eau et qu'il y avait plein de tâches et qu'elles retardaient. Et souvent, plein de micro-tâches au final, des petites choses qui peuvent prendre quelques minutes, mais tout accumulé, qui peuvent prendre plusieurs heures. Donc, on peut dire à la personne, bah, écoute, pour commencer ce premier mois, j'aimerais qu'on se mette à jour sur toutes ces choses qui sont en retard dans mon business et que j'aimerais voir ne plus avoir en tête et me dire que ça, c'est fait. Et ensuite, on enchaînera sur les missions que j'ai envie de te déléguer de façon mensuelle et qui reviendront tout le mois. Donc ça, c'est, on va dire, les deux options. Moi, par exemple, là, j'ai recruté mon assistante il y a quelques semaines et je suis dans cette deuxième option. J'avais énormément de petites tâches qui traînaient pour faire des exemples. Ma signature de mail buguée, j'avais un petit problème. En soi, je savais que j'avais juste à aller sur Canva, remodifier mon image, remettre mes liens, me la télécharger. Enfin, j'en ai pas pour une heure à le faire, mais je le faisais pas. J'ai besoin de transférer tous mes questionnaires de Google Form à Typeform parce que j'ai changé d'outil. Donc, je paye l'outil, mais je ne l'utilise pas parce que je ne prends pas le temps de le faire. Vous voyez, toutes ces... c'est des petites choses. Il n'y en a pas pour longtemps en soi, mais c'est juste que je ne prenais pas le temps de le faire. Donc, j'ai dit à Lou, écoute, Lou, ce premier mois, tu prends le temps qu'il faut, mais je voudrais qu'on se mette à jour sur toutes les choses en retard. Et ensuite, je te dirai exactement ce que j'ai besoin de faire pour les autres mois de façon régulière, on va dire. Donc voilà, si ça peut vous éclairer, moi, ce qui s'est passé et les deux types. Après, on y va petit à petit, on fait des points, mais on parlera après de comment se préparer.
Ouais, et je pense que non, mais c'est super intéressant cet aspect-là de se dire aussi que si à un moment donné, justement, on a cette charge mentale qui déborde et que c'est plein de micro-tâches, mais effectivement, c'est des choses sur lesquelles on procrastine parce que en même temps, bah voilà, il y a le business qui continue, il y a par exemple pour mes clients, les cours de yoga à faire, etc., etc. Enfin, c'est juste vraiment une libération de pouvoir confier toutes ces choses-là à quelqu'un et de se remettre, de repartir entre guillemets à zéro, quoi. Donc, effectivement, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire il y a potentiellement délégué pour collaborer, entre guillemets, et puis il y a délégué pour aussi venir rattraper, remettre à flot. Donc, effectivement, c'était important d'en parler. Comment ça se prépare, la délégation? Est-ce que, finalement, on fait rentrer quelqu'un dans notre business? Comment on prépare ça?
Alors, je dirais que c'est le point le plus important. De l'interview et du moment de déléguer, c'est qu'il doit y avoir absolument une préparation et une prise de conscience aussi de la part de l'entrepreneur. Toutes les choses dont je vous ai parlé en amont, là qu'on peut commencer à déléguer, même si on fait plein de petites micro-tâches, ça peut se faire seulement si en amont il y a eu un travail et une préparation de la part de l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que j'appelle préparation? Premièrement, on va attribuer du temps dans son agenda pour cette mise en place, on va dire, de la collaboration, pour accueillir son assistante. On va prévoir du temps pour les réunions, on va prévoir du temps pour lui communiquer toutes les informations dont elle a besoin, on va prévoir du temps aussi pour potentiellement préparer les process. C'est vraiment des choses qui sont essentielles. L'assistante ne pourra pas commencer si elle n'a pas de ces informations-là. Elle n'est pas dans votre tête, personne n'est dans votre tête. Du coup, ça passe par une communication et une organisation en amont qui sont pour moi essentielles. C'est le mot-clé pour moi, pour une bonne collaboration, c'est la communication. L'organisation vient juste après, mais il faut absolument que vous vous accordiez du temps, que ça soit... Voilà. Si vous n'avez pas envie de passer du temps à envoyer des mails ou à mettre par écrit, on va dire, sur l'outil, tout ce que vous avez à lui dire, envoyez-lui des vocaux ou accordez-vous sur un moyen de communication ou prenez le temps de faire ça en réunion. Là, il n'y a pas une bonne méthode parce que ça dépend de chacun, mais il y a des choses primordiales à déterminer. Il y a trois éléments que je conseille de faire juste avant de commencer la collaboration. On va établir ensemble un outil de communication. Donc, sur quel outil est-ce qu'on va se contacter pour éviter qu'il y ait et des messages sur Instagram, et des messages par mail, et des informations sur Notion, et des informations sur WhatsApp. Sinon, là, ça fait quatre canaux, on ne sait pas où sont les informations, on va chercher à droite et à gauche, donc ça, ce n'est pas le but. Première chose, on détermine son outil de communication. Deuxième chose, on détermine son outil de travail sur lequel on va construire cette collaboration. Donc, alors, Cécile vous l'a dit, moi je travaille sur Notion, mais ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez très bien travailler sur Trello, sur ClickUp ou sur tout autre outil qui vous convient. On se met d'accord avec l'assistante. Il faut bien entendu que l'assistante veuille prendre en main l'outil si elle ne le connaît pas. Donc, la communication, l'outil de travail et un rythme de rendez-vous. Un début de collaboration va demander du temps et de l'investissement des deux parties. L'assistante, ça va lui demander beaucoup d'énergie d'intégrer un business, de comprendre vos besoins, de venir vous poser ses questions, de venir construire elle-même de son côté les process par rapport à ce que vous lui avez demandé. Mais ça va prendre également beaucoup de temps à l'entrepreneur de prendre ce temps-là, d'apprendre à connaître son assistante également, comment elle fonctionne, comment est-ce que je lui parle, etc. De venir lui donner les informations. De venir mettre à jour un petit peu l'outil, parce que oui, le travail va des deux côtés dans un début de collaboration. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas dans votre tête. Donc, si elle n'a pas les informations, elle ne pourra pas travailler. Donc, voilà, trois choses primordiales pour commencer. Outils de communication, outils de travail et rythme de rendez-vous. S'il le faut, le premier mois, moi, c'est souvent ce que je fais. Alors, après, on diminue, mais ça peut être un rendez-vous par semaine, même si c'est un rendez-vous d'une demi-heure, de 30 minutes. On dit, bah, écoute, cette semaine, on établit trois objectifs. J'aimerais que tu puisses faire ça, ça et ça. Et on y va. Le but, là, c'est d'y aller petit à petit. Je trouve ça très bien pour se préparer, justement, pour pouvoir tester, de ne pas donner toutes les missions à faire d'un coup. On a notre to-do avec tout ce qu'on a envie de déléguer potentiellement, mais on a aussi nos objectifs. Le but, c'est que l'assistante, elle y aille à son rythme et qu'elle puisse valider, on va dire, les missions une à une, qu'elle puisse s'assurer que ça soit acquis et que vous aussi, vous puissiez vous dire, c'est bon, ça, elle sait faire, je peux le vider de ma tête, je lui ai donné tout ce qu'elle a besoin, je m'en occupe plus. Maintenant, je vais lui donner autre chose. Voilà mes conseils sur la préparation. J'espère que c'était assez clair.
Oui, c'était très clair. D'ailleurs, je bois tes paroles, Lucie. Donc, c'était très, très clair. Effectivement, moi, ce que je veux qu'on... Enfin, ce que je souhaite hein, qu'on puisse retenir de ça, c'est que, oui, déléguer au début, bah, c'est un peu comme une relation de couple. Hein. Il faut qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître. Et je pense que le succès aussi d'une bonne collaboration, c'est effectivement de bien, entre guillemets, manager cette délégation et de prendre le temps voilà, de bah ouais, que ça s'imbrique, que on se comprenne, on se découvre, on se corrige, etc. Et donc c'est vraiment oui d'intégrer ces quelques compromis peut-être au début en termes de temps et qu'après au final c'est pour en gagner. Mais c'est vrai que souvent je pense qu'on se dit je vais déléguer, ça va aller très bien, très vite, tout de suite. Enfin bon, ça peut arriver. Hein, il y a des choses aussi. Enfin nous sur l'administratif, ça s'est mis assez vite en place, etc. Mais je veux dire, c'est normal que quand on intègre, entre guillemets, un nouveau collaborateur, et même si c'est des missions qu'on délègue, pour moi, c'est comme avoir un nouveau collaborateur dans son équipe, c'est normal que, quelque part, il y ait aussi un temps d'onboarding, d'accueil, de se comprendre, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment important parce que souvent, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui baissent les bras aussi assez vite en disant, bah non, ça me va pas, c'est pas fait comme je veux, et puis ça me prend trop de temps, et donc j'arrête et puis finalement je reprends les choses par moi-même quoi. Ben, c'est un peu comme tout, voilà, il faut se laisser un peu de temps.
Tout à fait, c'est totalement aussi possible. Moi je l'ai déjà vu, qu'une cliente vienne vers moi, me dise bah, voilà, j'ai besoin de déléguer, et au final bah, le mois où on y arrive, bah, elle n'a pas le temps ou elle n'a pas le moment, et qu'on se dise bah, écoute, là il faut que je termine cette période, c'est le rush,
oui,
et je reviens vers toi le mois prochain parce que là je ne peux pas. Et c'est ok, et c'est d'autant mieux pour l'assistante de savoir que ce mois-ci, bah, ça ne sert à rien de venir communiquer, d'aller chercher des infos, on ne les aura pas, de savoir que ça sera que le mois prochain. Et je rebondis sur ce que tu dis, je trouve que c'est surtout important pour le poste d'assistante, on va dire. Quand on délègue une expertise à une freelance, par exemple, j'ai un exemple en tête, l'identité visuelle, créer l'identité visuelle, on va communiquer les infos et après, bah, la freelance travaille de son côté, on va dire. Mais là, le rôle de l'assistante, c'est quand même d'être investi dans votre business, de pouvoir être un petit peu votre épaule et votre deuxième cerveau quand il y a besoin. Donc, ça demande de l'implication, ça demande du temps. Voilà. Et le dernier petit point que j'ai oublié de vous dire pour comment se préparer, si c'est possible, préparez tous les process. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui n'ont pas de process et qui ont besoin que l'assistante vienne les créer et on les co-crée ensemble. Voilà, c'est totalement réalisable. Il faut juste être au clair dès le début quand on commence avec l'assistante. Ou bien, il y a des personnes qui ont déjà des process, mais qui sont juste dans leur tête et qui n'ont pas été mis. Donc là, on vient tout lister et en fait, ce qui fera que l'assistante pourra être autonome et efficace dès le début. Voilà, les process qui sont en place, s'ils sont validés par vous, elle a simplement eh ben, à les appliquer. Du coup, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de comment dire, de bon exemple, de bonnes choses à faire, puisqu'encore une fois, ça dépend du business de chacun, ça dépend du fonctionnement de chacun. Il y a de tout. Moi, j'ai vraiment eu les deux. J'ai eu, quand j'ai commencé à travailler avec Marion de Magnetic Story, j'avais tous les process de A à Z, mais c'était impressionnant, toutes les micro-tâches décrites. Du coup, ce qui fait que dès que je suis arrivée le premier mois, bah, j'ai été de suite opérationnelle et de suite des résultats. Mais elle, en amont, ça lui avait demandé des mois de préparation pour m'accueillir, mais c'était son choix de le faire comme ça. j'ai aussi d'autres clientes, un peu plus comme Cécile, qui voilà, me disent, bah, moi, je fais comme ça avec mes clientes. Est-ce qu'on peut améliorer les process? Est-ce que, on peut se dire qu'on fait ça dans cet ordre-là? Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses, venir optimiser? Et c'est OK aussi. Il faut simplement s'assurer qu'on ait recruté l'assistante qui aime faire ce genre de choses. Voilà. Mmh.
Ouais, alors c'est vrai, t'as raison de le préciser parce que moi, quand je recrute, peut-être que ça vient de mon historique, mais j'aime que ce soit ouais, une collaboration dans le sens, j'aime que la personne avec qui je travaille, elle soit force de proposition, elle optimise, c'est vraiment ce que je viens chercher. Donc j'ai besoin quand même qu'il y ait un certain pouvoir personnel chez la personne avec qui je travaille. Alors qu'il y a aussi d'autres collaborations et d'autres assistantes d'ailleurs qui vont aussi aimer être clairement dans le j'ai une liste de tâches, je fais, il y a un process et je n'ai pas justement à être plus force de proposition ou autre. Donc c'est vraiment important, je trouve, ça va un peu dans le savoir-être aussi de ce qu'on attend, j'imagine, quand on cherche quelqu'un. Bon, ça serait plus là, comme on disait tout à l'heure en amont de l'enregistrement de cet épisode, une autre partie qui serait comment vraiment gérer tout ce process de recrutement, créer une fiche de poste éventuellement, etc. Mais on n'en est pas là pour aujourd'hui. Par contre, effectivement, ça me permet de faire le lien directement avec justement, alors comment je la trouve cette personne qui va travailler avec moi?
Alors, il y a différentes options. Là-dedans, pour le métier d'assistante virtuelle, on est beaucoup. Vous avez la première option qui va être de taper le petit mot assistante virtuelle sur Instagram et vous allez trouver plein de profils différents. Vous avez aussi l'option d'aller sur des sites de freelance où vous pourrez trouver des personnes. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vos collègues, de vos amis entrepreneurs, où est-ce qu'ils ont
bouche
trouvé,
à oreille.
Voilà, de leur assistante du bouche à oreille s'il y a du conseil. Et sinon, bien entendu, je vais vous parler de mon agence, puisque moi, mon objectif depuis l'année dernière, donc mon planning était complet, je ne pouvais plus prendre de nouvelles clientes, mais je me suis aperçue qu'il y avait un besoin énorme parce qu'en vrai, tout entrepreneur aurait besoin et a besoin en fait d'une assistante. Je me suis dit, bah, ne reste pas là, viens aider d'autres entrepreneurs. Et donc, j'ai créé mon agence où j'ai recruté 20 assistantes qui ont chacune leurs compétences, leurs spécialités et leur personnalité, surtout parce que je me base beaucoup sur l'humain pour mettre en place les collaborations. Donc voilà, vous pouvez faire aussi appel à une agence qui va venir vous aider, vous sélectionner des profils adaptés à vos besoins en termes de compétences pro, en termes de valeurs humaines, on va dire. C'est aussi une option. Il n'y a pas que mon agence, bien entendu. Moi, c'est mon agence, Hive Agency, si vous voulez me suivre. Mais voilà, il y a plusieurs options. Le bouche à oreille que je recommande plus. Moi, j'ai la totalité de mes clientes, quand je prenais des clientes, ça a été avec le bouche à oreille. Votre réseau. Moi, je suis moins fan des plateformes, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. On peut trouver des très beaux profils sur des plateformes de freelance. Voilà, moi je suis moins fan. Mon choix numéro un, ce serait le bouche à oreille. Voilà.
Ouais, clairement, moi c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler avec toi. Je dirais que souvent la perle rare se trouve dans nos clients ou dans notre audience. Donc ne pas négliger en fait juste le fait de parler, de dire qu'on recherche quelqu'un pour quel type de tâche éventuellement. Et je crois que souvent effectivement la perle rare peut se trouver déjà dans nos contacts sur notre liste email, notre audience sur Instagram, effectivement nos relations, nos proches, etc. Donc je dirais que la première chose c'est d'en parler en fait, de faire savoir un petit peu qu'on cherche quelqu'un, qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider dans notre business, et probablement qu'à partir de là il y aura des opportunités qui vont se dessiner. En parlant de la bonne personne, une question que je me suis souvent posée, et est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un un peu couteau suisse ou d'avoir une personne spécialisée dans un type de tâche, et donc pourquoi pas finalement de démultiplier les prestataires qui vont travailler pour nous si on en est à des collabs avec des freelances. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Lucie?
Alors, moi, j'ai envie de dire les deux.
Lucie, c'est... je ne mouille pas.
Hein. Non. Je vais expliquer ce que j'ai envie de dire. C'est qu'il est totalement possible de trouver une assistante spécialisée et qui est aussi à la fois un couteau suisse. Je m'explique pour ça. Par exemple, on peut avoir une assistante qui va être spécialisée. Alors, j'ai l'administratif en tête, mais ça peut être, je sais pas, sur la communication ou sur le podcast, peu importe ce que vous voulez.
Système.io.
Voilà, Système.io. Voilà, imaginons, on a une assistante qui est spécialisée sur Système.io. Waouh, c'est nickel, c'est ce que vous avez besoin à votre formation, aller sur Système.io, ça va être trop bien. Mais ça peut être aussi un couteau suisse dans le sens où, d'accord, elle maîtrise à 100% Système.io, mais à côté, elle est aussi performante sur d'autres tâches, sur, je ne sais pas, la gestion des mails, la gestion un petit peu de l'admin, la programmation de X choses. Voilà. Pour moi, c'est totalement possible qu'une assistante puisse cumuler une spécialité, qu'elle le dise, voilà, qu'elle soit reconnue pour cette partie-là et que ce soit la partie qu'elle préfère faire, mais qu'elle soit aussi disponible pour réaliser d'autres tâches. Pourquoi ? Parce que si on est assistante virtuelle, c'est parce qu'on aime être multitâche, qu'on aime intervenir sur plein de choses. On a le droit d'avoir une préférence, c'est ce que j'appelle là la spécialité et une expertise, parce qu'en général, si elles sont spécialisées, c'est qu'elles ont été formées dessus ou qu'elles se sont formées. Enfin,
ou voilà, une expérience passée dans un domaine de prédilection.
Totalement. Et c'est pas pour autant qu'on a envie de se cantonner à ça, sinon on aurait mis, par exemple, si je prends l'exemple du podcast, on aurait mis pas assistante virtuelle, mais gérant de podcast, ou je sais pas comment on appelle les personnes qui gèrent le podcast, mais...
Podcast manager,
voilà, exactement. Donc c'est pour vous illustrer mon exemple. Après, je connais aussi, donc là je prends l'exemple des assistantes que j'ai dans l'agence, j'ai des personnes qui veulent faire que de l'administratif, qui sont spécialisées dans l'admin. Elles sont passionnées par les papiers. Oui, ça existe. Et elles adorent ça. Et du coup, elles ne veulent faire que de l'administratif et ne veulent pas toucher à la technique, on va dire, au côté web. C'est totalement possible. On a aussi l'option que je propose de l'agence, qui est chouette, de pouvoir travailler avec plusieurs assistantes, c'est-à-dire d'avoir une assistante qui va s'occuper, par exemple, de la partie admin. J'ai des clientes qui ont besoin d'une assistante pour gérer tout ce qui va être gestion, par exemple, de tout ce qui est CPF, Calliope, Digiformat, de gérer tous ces outils-là, parce qu'il y a une partie de formation. Et elles veulent une assistante qui est plus du côté web marketing, qui va s'occuper, par exemple, de retranscrire les podcasts, d'aller mettre en ligne les articles de blog, d'aller programmer les visuels sur Instagram, enfin, vous voyez tout cette côté web, d'aller mettre à jour le site web sur des liens, des outils, des boutons, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est possible aussi de se dire, voilà, j'ai envie que chacune soit spécialisée à 100% dans ce qu'elle aime faire, j'ai pas envie qu'elle se mélange, donc je vais recruter deux assistantes, mais qui sont vraiment spécialisées chacune dans leur partie. Donc c'est pour ça que je t'ai dit un petit peu les deux. C'est à l'entrepreneur de décider quelles sont ses attentes et qu'est-ce qu'il a envie. Est-ce qu'il veut une assistante qui puisse toucher un petit peu à tout ? Ça ne veut pas dire qu'une personne qui touche à tout n'est pas performante, pas du tout. Moi, je ne me suis jamais spécialisée au tout début. J'étais spécialisée dans l'administratif. Mmh. Après, j'ai découvert le monde de la formation et j'ai adoré travailler pour les coachs. Du coup, ma spécialisation n'était pas forcément un domaine précis, mais plutôt une cible. C'est-à-dire que moi, je suis toujours assistante de formation pour les assistante virtuelle pour les coachs. Et je touche à une multitude de choses, que ça soit le côté admin, que ça soit le côté gestion des clients, que ça soit le côté un peu plus web marketing.
Événementiel.
Et événementiel également, c'est vrai. Voilà. Donc vraiment, ça dépend de chacun. J'ai pour exemple une cliente, Cécile, qui est dans ton audience, qui m'a dit, voilà, c'est vrai que si j'ai une personne qui s'occupe que de l'admin, ça serait super parce que je sais qu'elle va prendre en main ça et elle va le gérer toute seule. Après, je n'aurai pas à revenir dessus. Et si je peux avoir une autre personne qui va s'occuper plus du côté web, OK, comme ça, elles ont chacune ce qu'elles savent faire et elles peuvent travailler aussi en même temps, j'ai envie de dire. Si on a une assistante qui a une liste super longue pour tout faire, bien entendu que ça va prendre plus de temps à faire, à réaliser les missions, à venir les valider. Tandis que si on a deux personnes qui ont chacune des tâches distinctes à faire, elles vont pouvoir potentiellement, sans qu'on le sache, travailler en même temps. Mais du coup, la même semaine, vous allez vous dire, ah ouais, donc là, ça c'est fait.
Ça avance.
Voilà. Et de l'autre côté, j'ai un tel qui s'est occupé de ça. C'est trop bien, j'ai une équipe. Voilà.
Yes, c'est hyper intéressant, effectivement. Et après, moi, sur la partie, en fait, ce que je pense qui est surtout important dans cette décision-là, c'est finalement ce qu'on a vu au préalable, c'est de faire les choses aussi un peu étape par étape, déléguer d'abord une première chose, valider que c'est en place, ensuite aller déléguer une deuxième chose, et finalement, derrière, Tu l'as très bien dit, choisir entre un couteau suisse ou quelqu'un de spécialisé. Et en même temps, la problématique pour moi, elle est en amont, quoi, de bien définir à partir du moment où ça c'est clair, où il y a de la clarté dans ce qu'on va venir déléguer et qu'on met les choses en place petit à petit. Effectivement, une personne couteau suisse, comme tu dis, est pas du tout forcément moins compétente, bien au contraire. Et puis je dirais même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, on va de plus en plus vers des générations qui sont multipassionnées, qui aiment s'intéresser à plein de choses, qui sont curieux de d'apprendre. Donc au contraire, je pense que des couteaux suisses, on en trouvera de plus en plus et c'est tant mieux aussi. Et ça n'empêche pas effectivement d'avoir en tant qu'assistante son domaine de prédilection ou sa spécialisation, quelque part sa niche entre guillemets pour s'adresser à son audience. Mais in fine, derrière, de pouvoir aussi prendre en charge plusieurs missions. Alors tout ça, c'est super, mais la dernière question qui me resterait, et je pense que c'est ce qui est peut-être le blocage principal ou le plus gros frein à la délégation, en tout cas, je sais, chez moi, dans mon audience, c'est combien ça coûte tout ça? Quel budget prévoir? Et donc, comment je fais pour pouvoir déléguer sans que ce soit finalement possible pour moi aussi de déléguer?
La fameuse question. Alors, je vais vous faire une fourchette de prix. Alors, vous allez pouvoir trouver des assistantes le plus bateau, non, même pas, parce que je suis sûre que des assistantes qui travaillent à l'étranger ont encore des tarifs un peu plus en dessous.
Ouais.
Mais en général, on va dire ici, ce qui se fait le plus, on peut trouver des assistantes entre 20 et 50 euros de l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les assistantes soit travaillent à l'heure, soit travaillent au forfait. Donc ça, c'est l'un ou l'autre. Le plus simple, moi, je trouve que c'est à l'heure. C'est ce qui est le plus juste, en fait, pour les deux parties, pour le client comme pour l'assistante. On vient définir un tarif à l'heure qu'on multiplie par le nombre d'heures réalisées. Aujourd'hui, la moyenne des assistantes est à 40 euros de l'heure. Voilà. Vous pouvez monter au-dessus. On peut trouver des assistantes qui vont être à 45, même à 50 euros de l'heure. C'est les assistantes qui sont très nichées ou qui ont une spécialité ou tout simplement une expérience. Et que si on veut bosser avec ces personnes-là, on met le prix parce que derrière, il y a les résultats ou parce que tout simplement, on veut cette personne. Ça, c'est OK. Chacune est, on va dire, met ses propres, fixe ses propres prix. Mais la moyenne, elle est, on va dire, aux alentours des 40 euros. Quand les assistantes se lancent, il y en a beaucoup autour de 30-35 euros. Alors là, j'ai envie de vous dire attention, mais c'est pas parce qu'une assistante se lance que c'est une mauvaise assistante, pas du tout. Des fois, moi, je suis passée par là. On a besoin d'évoluer mentalement pour faire évoluer ses prix. On a besoin de se convaincre qu'on sait faire ce métier, que nos clientes sont satisfaites. Donc voilà, il se peut que vous trouviez des bonnes assistantes à un prix un peu bas, mais il se peut aussi que ça vous mette un petit signal d'alerte. Attention, pourquoi est-ce qu'elle est en dessous de la moyenne? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est une technique de sa part? Est-ce que c'est juste parce qu'elle manque d'assurance ou pas? Donc on trouve un petit peu de tout. C'est un autre sujet, comme disait Cécile. Vous ne vous basez pas après sur le prix, mais plutôt la façon dont vous allez recruter votre personne, en fait. Qu'est-ce que vous allez chercher vraiment sur la personne? Là, on a vraiment parlé, de la délégation au sens large, mais vous verrez que tout part de vous, en fait, de vos besoins, vos attentes. On a parlé un petit peu du travail, de la méthode qui reprenne un petit peu vos besoins. Mais en soi, vous verrez que si c'est le moment de déléguer, les prix, vous allez trouver dans la moyenne, entre 35 et 40 euros partout. C'est pas ça qui va vous faire choisir une assistante ou une autre. Je pense que ça sera plus le côté humain qui est très important.
Ouais, après, il y a quand même un aspect, ça coûte. Donc, à un moment donné, quand on lance son activité ou qu'on est en train de développer son activité et qu'on n'a pas forcément encore des chiffres d'affaires, mais là où moi, je voudrais un petit peu pondérer ça, c'est qu'on peut déléguer déjà une heure, rien qu'une heure, pour une tâche vraiment chronophage ou quelque chose qu'on ne sait pas faire ou même de façon ponctuelle, mettre en place un calendrier, créer sa plateforme sur System.io, des tâches, des petites tâches, ou même cette histoire d'héberger les replays. Les profs de yoga font beaucoup de vidéos, par exemple. Ça peut être juste, je prends quelqu'un qui s'occupe de récupérer les replays et les héberger sur ma plateforme. Déjà, je m'occupe pas de ça, et ça va peut-être être le tout cumulé une heure de travail dans le mois. Et donc, pour 40 euros, bah, clairement, voilà, je peux aller donner un cours particulier pendant que tout ce travail-là se fait dans le mois et je vais clairement faire une opération blanche. Donc, je pense que c'est aussi relativiser sur le fait que déléguer, ça ne veut pas dire tout de suite prendre quelqu'un 10 heures par semaine. Ça ne veut pas dire effectivement, voilà, tout déléguer d'un coup, ça, on l'a bien vu. Et donc, ou même comme moi, quand j'ai commencé la délégation, c'était au forfait, nous, sur la gestion administrative. Bon, enfin voilà, c'était un forfait pour 200 euros de mémoire où voilà, moi Lucie, je savais que je n'avais pas, comme tu disais très justement, à mettre le nez, même s'il y a toujours des contretemps avec nos fameuses institutions, mais ça après derrière c'est justement Lucie qui gérait et moi ça m'aurait pris la tête, ça m'aurait pris un temps fou et en fait voilà. Quand on démarre, qu'est-ce que je peux faire à la place pour moi récupérer ces 200 euros? Bah ouais, je peux créer un atelier en ligne, je peux créer un coaching one-one, je peux créer un cours particulier, je peux faire autre chose vraiment pendant ce temps-là. Donc, que ce soit au forfait, bon là, c'était donc un petit peu plus important en termes de budget, mais voilà, juste commencer par déléguer une heure peut-être par mois ou une heure par 15 jours ou une heure par semaine, juste pour mettre le pied à l'étrier. Et déjà ça, voilà, juste commencer quoi, faire un pas, je pense, vers la délégation et voir bah, effectivement comment ça vient vous soulager, libérer de cette charge mentale et puis au contraire vous donner aussi de la puissance et l'occasion de faire d'autres choses, de développer votre chiffre d'affaires et d'aller bah, développer aussi vos clients, etc. pendant ce temps-là quoi.
Totalement, je te rejoins parfaitement. Effectivement, je n'avais pas vu la question dans ce sens-là, on va dire, mais c'est totalement possible de déléguer de façon ponctuelle ou juste, comme tu dis, une ou deux heures. L'essentiel, en fait, c'est d'être au clair avec soi-même et avec l'assistante, qu'elle sache exactement quand est-ce qu'elle doit travailler pour vous, l'heure qu'elle doit bloquer, et vous, que vous sachiez exactement qu'à la fin du mois, le budget, il est de temps à peu près, qu'elle ne va pas aller dépasser ouais. Si vous lui dites qu'il n'y a que ça à faire.
Il n'y a pas d'honoraire.
C'est ça. Il y a une chose aussi qui est importante. Alors bien, là, ça dépend des assistantes. Certaines mettent des conditions d'engagement. Mais souvent, la plupart, elles travaillent au moins le mois. Mmh. C'est-à-dire que oui, le but, c'est de créer une relation de confiance et potentiellement durable dans le temps. Mais c'est totalement possible de se dire, bah, je vais tester. Pourquoi pas commencer par 2 heures ce mois-ci. Voilà, je vais demander à une telle personne de faire ça et ça. On va voir comment je me sens, si ça le fait avec cette personne également. Et en fait, on est libre soit de continuer si on a envie de continuer les autres mois ou soit d'arrêter. Le but aussi d'être on va dire, entrepreneur et de faire appel à d'autres freelances, c'est ça aussi, c'est la liberté de se dire je vais tester, je vais voir si ça fonctionne, ce que ça m'apporte, et puis je fais mon choix en suivant. On ne s'engage pas. Bah, encore une fois, ça dépend des assistantes. Il y en a qui mettent un délai d'engagement minimum de 3 mois, etc. Moi, j'adore ce principe de liberté. C'est ce que j'ai mis en place même dans l'agence parce que je trouve que tant qu'on ne travaille pas avec une personne, on ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas. On ne peut pas savoir si le feeling il va être là, si nos attentes, elles vont être... si la personne va répondre à nos attentes. Donc, on teste. Et des fois, on se dit que c'est un énorme pas. Oh là là, si je recrute une assistante, ça veut dire que je m'engage. Ça veut dire que ça y est, je passe une étape au-dessus. Pas du tout, vous ne prenez pas la tête. Oui, il y a du travail. Oui, c'est pour évoluer. Oui, c'est pour votre bien. Mais on teste, c'est possible de commencer petit à petit à votre rythme. Et ça, je dirais même que c'est super important d'aller à votre rythme. Et même pour l'assistante, de ne pas la noyer en lui disant bah, « Débrouille-toi, je veux que tu fasses tout ça et vas-y. » Allez-y à votre rythme, dédramatisez la situation. Si ça fonctionne avec la personne, c'est parfait. Et vous allez voir, en fait, vous allez vous épanouir parce que le but, c'est que oui, ça vous fasse grandir dans votre business, ça vous libère la charge mentale. Il y a plein d'avantages à la délégation. C'est encore un autre sujet et je pense que vous les avez entendus aussi. Mais derrière, en fait, le but tout ça, c'est de vous permettre de vous épanouir. Et vous verrez que si l'assistante, elle est investie et que vous êtes sa cliente idéale, elle aussi, travailler pour vous, ça va l'aider à s'épanouir. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, collaborer, on va dire, avec d'autres personnes, c'est bien s'entendre, s'apporter l'un et l'autre des choses, se respecter. Enfin, il y a plein de choses. Mais dites-vous qu'il faut dédramatiser la situation. C'est OK de commencer avec quelqu'un, de tester, de faire quelques heures. Vous excusez pas non plus de dire... J'ai pas le budget, je vais juste payer quelques heures. C'est votre besoin, c'est comme ça. Et
oui, je pense que c'est bien de effectivement de faire de dédramatiser ça. En fait, c'est très juste ce que tu dis. On n'a pas à s'excuser d'avoir qu'une heure à déléguer au début, et au contraire de vouloir justement bah, commencer, démarrer, mettre le pied à l'étrier. C'est super, quoi. Donc Et ça ira très bien aussi. Il y aura une assistante pour prendre cette heure-là qui sera ravie effectivement de commencer à vous aider dans votre business. Bah, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour sur la délégation. Hein. On a répondu aux questions, en tout cas moi, qui revenaient souvent dans mon audience. Donc, quand déléguer, comment identifier ce qu'on peut, ce qu'on doit déléguer, par quoi commencer, comment se préparer à la délégation, comment trouver la bonne personne, quel budget prévoir, etc. Donc, on a couvert pas mal de questions. Évidemment, Lucie, je vais mettre le lien de l'agence pour les auditeurs donc dans les notes de cet épisode. Comment ça se passe du coup le process alors pour l'agence, si par exemple quelqu'un est intéressé?
Alors, c'est assez simple parce que moi, j'aime ce qui est simple, mais cadré. Donc, tout passe par moi. Le premier contact se fait avec moi. On fait un appel découverte ensemble qui dure 45 minutes. Je viens en fait apprendre à vous connaître. Je viens récupérer tous vos besoins sur le côté pro, on va dire, sur le côté compétences. Et je viens également vous poser plein de questions sur la petite partie humaine pour essayer de voir avec quel profil ça pourrait matcher. Donc, je viens vraiment titiller, on va dire. Des fois, on me regarde, on me dit « Mais pourquoi tu poses cette question ?» Parce que ça va me servir.
En fait, tu es le Tinder des assistantes.
C'est un peu ça.
Le match parfait par Lucie.
C'est le but. C'est le but. Donc, en gros, voilà, je viens récupérer vos besoins sur le côté pro et sur le côté humain, on va dire. Ensuite, moi, je fais mon petit travail de mon côté, je fais mon compte rendu, je propose votre profil aux assistantes à qui je pense. En général, pour être honnête, lors du rendez-vous, je sais déjà qui je vais vous proposer parce que je connais mes assistantes et que je vois à peu près avec qui ça pourrait fonctionner. Toutes mes assistantes sont libres de se positionner ou pas sur le profil. C'est très important pour moi que, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux se choisissent, que ce soit le client comme l'assistante. L'assistante ne pourra pas être investie si elle n'a pas envie de travailler avec tel profil, donc il faut que l'univers parle, il faut que les missions de la cliente lui plaisent également. Donc, je propose à l'assistante, se positionne ou pas. Dans le cas où elle se positionne, je vous envoie sous 48 heures le lien de son calendrier. Là, vous faites un appel. Le but, c'est pas de refaire l'appel qu'on a fait ensemble. Vos besoins, elle les connaît. Le but, c'est d'aller se projeter. C'est d'aller voir si le feeling, il est là avec cette personne. Si on peut partir sur un fonctionnement qui pourrait matcher. Voilà. De voir, en fait, c'est bête. L'intuition, ça dépend des personnes, j'ai envie de dire. Mais souvent, on sait lors d'un appel comment on se sent quand on échange avec cette personne. On sent si au fond de nous, il y a quelque chose qui se dit il y a un truc qui va pas le faire, ou s'il y a un truc qui se dit ouais, elle est géniale cette personne, ça va être trop bien. Voilà. Donc le but, c'est de tester. On fait un petit appel. Ensuite, trois options. Ça match. C'est la meilleure des options. Vous me dites Lucie, coup de cœur, prépare-moi un contrat. C'est parti. Deuxième option, vous avez besoin d'échanger parce que vous avez vu plusieurs profils et que vous voulez mon avis parce que je connais les filles. Et troisième option, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de profil qui plaît. Chacun continue de son côté. Voilà. Mm-hmm.
Yes, super. Donc du coup, effectivement, je mettrai le lien. Je pense que c'est au-delà après. Enfin, le premier frein, c'est OK, combien ça va me coûter. Et le deuxième frein, c'est comment ça marche, comment je m'y prends, c'est quoi les démarches, comment je trouve. Donc voilà, je pense qu'on a débroussaillé tout ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, je vous invite à nous partager cet épisode si vous l'avez écouté et à nous donner vos motivations à déléguer. N'hésitez pas à taguer du coup Lucie. Je vous mettrai aussi son compte Instagram, le compte de l'agence. Je crois qu'il y a un compte pour l'agence. Non, il n'y a pas encore de compte pour l'agence. Il me semblait, mais non, pas encore. Donc, en tout cas, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, je vous souhaite une bonne délégation à tous. Et puis, merci, Lucie, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Cécile. Merci à tout le monde pour votre écoute. J'étais ravie.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'aura donné de nouvelles perspectives sur la délégation. N'hésite pas encore une fois à nous le faire savoir en partageant cet épisode en story. Qui sait, peut-être que ta future perle se trouve dans ton audience. Tu peux aussi nous laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Et je t'invite évidemment à mettre les choses en marche en prenant rendez-vous dès aujourd'hui avec Lucie. Toutes les informations sont dans les notes de cet épisode. Crois-moi, une fois que tu auras commencé à déléguer et vu le confort et l'épanouissement que ça peut t'apporter de te sentir soutenu par des personnes aussi investies que toi pour faire avancer ton biz, tu comprendras que la délégation est un vrai game changer dans ton business. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.